Pour l'instant, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 32. Sur lequel on va se pencher donc ce matin. Le psaume 32. Nous lisons dans la parole infaillible de Dieu, de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc nous allons nous pencher ce matin donc sur ce psaume 32, et qui paraît à première vue d'œil vous enseigner quelque chose de contradictoire. Nous allons donc voir ce matin que le croyant chrétien unit en lui deux natures, deux vérités, deux réalités qui semblent être une contradiction. Et donc ce psaume a beaucoup à nous enseigner, beaucoup pour comprendre notre marche chrétienne, beaucoup pour comprendre ce que c'est être un chrétien, vivre en tant que chrétien, et pour comprendre qui nous sommes en fait face à ce Dieu de l'univers, ce Dieu qui se révèle. Et c'est important, c'est vraiment important que nous écoutions ce que le roi David a écrit ici. Parce que si nous comprenons bien ce psaume, si nous le comprenons bien, il y a de nombreuses bénédictions, de nombreux bienfaits qui vont en découler pour nous. Et juste pour vous donner un peu l'aperçu de ces bienfaits, par exemple le verset 11, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. » Il y a la joie là. Et au verset 10, on voit l'autre penchant, l'autre côté. Si on n'écoute pas ce psaume, il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Et donc ce matin, nous allons voir trois choses ensemble. Nous allons voir donc trois points. Tout d'abord, pécheur. Nous sommes pécheurs. Deuxièmement, et juste. Deuxième point, donc, est juste. Et troisièmement, nous sommes pécheurs et justes à la fois. Et là, vous avez un peu ce qui paraît être une contradiction. Pécheurs et justes à la fois. On va d'abord donc se pencher sur ce pécheur qui nous est décrit ici dans le psaume 32. Alors, ce psaume nous montre à trois reprises, avec trois mots différents, une même réalité. C'est comme si vous regardez avec trois angles différents la même chose. Et ça déclare donc la même chose que le roi David, le roi d'Israël, qui a écrit ces lignes, hein, qu'il est et qu'il se voit en tant que pécheur. Et donc nous voyons le premier mot qui nous apparaît même deux fois, c'est le mot transgression, verset 1 et au verset 5. En hébreu, c'est pécha, Ça ressemble un peu au péché, hein, français, pécha. Donc c'est traduit ici par transgression. Alors qu'est-ce que ce mot veut dire en fait? En fait, c'est le mal commis par les actes. Il s'agit d'œuvres qui en elles-mêmes qui sont donc mauvaises. C'est un mal, on peut dire, un peu impulsif, qu'on fait sans même vraiment y réfléchir. Et c'est ce que David nous décrit aussi dans le psaume 51, le fameux psaume où David donc se repent de son péché, de l'adultère avec cette femme qui n'était pas la sienne, avec Bathsheba. Et donc le meurtre qui suit, hein, de son mari, il essaie de couvrir cette histoire par un meurtre, par tout un tas de mensonges aussi. Et donc qu'est-ce qu'il dit David, le roi David au psaume 51, donc un autre psaume au verset 3, il dit « Efface mes crimes », c'est le même mot, péché, transgression, crime. Alors comment est-ce que ça peut se montrer dans nos vies, ce type de péché? Comment est-ce qu'on peut le vivre, nous? Par exemple, si on dit quelque chose juste pour faire mal à l'autre, si on jure, par exemple, on dit des grossièretés suite à quelque chose qui vient de se passer auquel on ne s'attendait pas, je ne sais pas, une tasse qui tombe par terre, ou quelque chose dans ce style. Ou alors aussi, on peut penser à un regard déplacé. Donc c'est ce mal impulsif. Après, David parle ici d'un deuxième type de péché dans ce passage. Et c'est le mot qui est retransmis par péché, tout simplement. En hébreu, c'est chataa, où il y a des mots un peu qui ressemblent à ce mot, un peu dérivés de ce mot. Et on le voit au verset 1 et au verset 5. Et même ce mot-là, il apparaît trois fois. Dans un psaume qui est court, hein, on a ce mot qui apparaît trois fois. Et l'accent ici par rapport à ce mot-là est plus mis sur le lien avec le péché originel. Donc notre nature plus profonde de ce qui nous sommes depuis la chute, depuis que Adam a commis avec Ève le premier péché. Et donc c'est un péché qui est plus en lien avec le péché. C'est en fait un peu plus profond. Si vous voulez une image, c'est un peu, il s'agit de l'arbre duquel découle, sur lequel poussent les mauvais fruits. D'accord? C'est ce type de péché-là. Et donc c'est un mal plus profond. Et ce mal plus profond, ben, il y a d'autres maux qui en sortent, si vous voulez. On peut penser aussi à une source empoisonnée et l'eau qui découle dans les différentes petites rivières après. Et on le retrouve encore ce mot aussi dans le psaume 51, au verset 7. Et là, David dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est ce mot ici qu'il utilise. C'est le mot chataa en hébreu. Alors, comment est-ce que, encore une fois, comment est-ce qu'on peut vivre ce péché dans nos vies? Comment est-ce qu'on peut le rencontrer et le vivre nous-mêmes? Ben, c'est lorsque, par exemple, nous nous voyons toujours nous-mêmes au centre, lorsque nous vivons de manière égocentrique, ou alors sa propre famille. On regarde ses enfants avant tout, sa famille. En fait, c'est un égoïsme profond et néfaste qui peut se montrer, par exemple, par le fait d'être avare, de toujours retenir les biens, de ne pas vouloir partager avec d'autres, de ne pas se donner pour l'autre, de ne pas aller vers l'autre pour le faire le bien que Dieu nous demande de faire. Donc, deuxième sorte de péché. Et encore, on a une troisième sorte de péché dans ce court psaume qui nous est décrit, encore une fois, à trois reprises, le même mot. Et c'est le mot faute que vous retrouvez au verset 2 et verset 5. Et qu'est-ce que c'est ce type-là de péché? En d'autres mots, c'est l'injustice. C'est en fait un péché qui est plus en lien avec Dieu. On se rebelle volontairement vers Dieu, face à lui. C'est en fait le péché d'ignorer, de mépriser Dieu profondément. Si vous voulez en d'autres mots, c'est un manque de vénération de Dieu, c'est un manque de crainte de Dieu. Et donc, ça ne nous étonne pas. On le trouve dans les 10 commandements. Si vous voulez tourner, vous n'êtes pas obligé. Dans la liste des 10 commandements, hein, dans le Exode chapitre 20, ça ne nous étonne pas. On rencontre donc ce type-là de péché. C'est donc Exode 20, verset 5. Et je vais prendre un peu avant, verset 4. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute, et là on a le mot, ici la faute, Aaron en hébreu, des pères sur les fils, donc je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et ça, c'est important aussi à relever, de ceux qui me haïssent. Donc ce péché-là montre spécialement la haine envers Dieu. Bien sûr, tous les péchés le montrent d'une certaine manière. On est d'accord, hein? Finalement, ces péchés se touchent et s'imbriquent un peu. Mais quand même, c'est un péché spécial qui montre une haine profonde envers Dieu. Comment on peut vivre ce péché? Comment est-ce qu'on peut le voir dans nos vies de chaque jour? Si nous passons une journée sans méditer la parole de Dieu, sans penser aux pensées de Dieu pour nous, par là nous montrons que Dieu nous est égal, qu'on peut passer par-dessus ce qu'il nous révèle, ce qu'il nous dit. Si nous passons quelques heures sans remercier Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour la vie éternelle que nous avons à travers Jésus, c'est encore une fois lui montrer le dos, c'est ne pas le vénérer pour ce qu'il est, pour ce qu'il mérite en fait. Ou encore, si vous prenez une décision importante sans avoir prié avant, c'est aussi montrer que finalement, on ignore Dieu. Et ce qui est étonnant à voir, c'est que David, le roi David, reconnaît qu'il a commis chacun de ces péchés-là, chacun de ces types de péchés. Au verset 5, il le reconnaît. Je vais juste relire. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. David le reconnaît. Et David va encore plus loin que ça. Dans les versets 1 et 2, David est en train de généraliser ça. Il dit, c'est pas juste moi, le roi David, qui ai commis ça, mais c'est vous tous, c'est nous tous. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Vous voyez, il généralise ça en fait sur l'ensemble de l'humanité. Il est en train de dire, chacun a commis chacun de ces types de péchés. Et c'est grave, bien sûr. C'est grave, et comment est-ce qu'on le voit dans ce passage? Nous le voyons au verset 10. Verset 10, la première partie. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Méchant, on peut aussi traduire par coupable. Il y a beaucoup de douleur pour le coupable. Donc celui qui enfreint la loi de Dieu, celui qui va à l'encontre de qui il est, celui qui se laisse aller dans son mal. Il y a beaucoup de douleur. Donc on voit ici que le mal commis, il y a une conséquence logique si nous commettons le mal, c'est que Dieu qui est juste, il doit intervenir. Il ne va pas laisser le mal impuni. Il va agir. C'est une conséquence logique. Et Dieu est en colère, c'est ce que nous révèle la parole de Dieu face au mal que nous commettons. Il est profondément en colère parce que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Nous n'avons pas rendu honneur et gloire à Dieu. Nous n'avons pas écouté sa loi. Nous n'avons pas suivi ses commandements. Alors, comment se montrent ces beaucoup de douleurs? Comment est-ce qu'on peut le connaître cela? Alors, Dieu peut nous laisser dans nos peurs, dans nos remords. C'est ce qu'on voit dans les versets 3 et 4. Je vais juste les relire. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Dieu peut laisser quelqu'un dans ses douleurs, dans ses remords, qui pèsent sur sa conscience. Mais il est vrai que beaucoup de personnes, et la plupart des personnes, ne ressentent même plus ces remords, puisque le péché a cette conséquence qui nous rend aveugles aveugle face à ces remords que nous devions même avoir. Il éteint, si vous voulez, notre conscience. Il l'endurcit. Et donc on ressent, normalement, nous ne ressentons même plus cette peur, cette crainte de Dieu. Et nous savons que la Bible nous enseigne qu'il y a beaucoup de douleur pour le méchant, parce qu'il y a un lieu de douleur que la Bible nous décrit comme étant l'enfer, le lieu de punition. Et c'est tout à fait étonnant à voir que personne n'a autant parlé de ce lieu que celui qui est révélé comme étant l'amour lui-même. Jésus-Christ a parlé de ce sujet plus que toute autre personne dans les Écritures. C'est donc important d'y réfléchir. Mais on va juste regarder un court verset que Jésus, donc, où nous voyons ce que Jésus dit par rapport à l'enfer. C'est Matthieu 25, 46. Et ceux-ci, donc, c'est les méchants, les coupables, iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc nous voyons qu'en fait, beaucoup de douleurs, c'est autant de point de vue intensité que de aussi longévité ou longueur dans la durée, en fait. Beaucoup de douleurs pour le méchant. Et en fait, le jugement nous montre la grandeur de notre mal. Le jugement nous montre la lourdeur du mal que nous commettons. Juste une illustration. Si, on va dire, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous parlez et il vous dit oui, là, je sors de prison. Ça fait du bien. Enfin, la liberté. J'ai fait 2 ans de prison. Alors vous vous dites, bon, en France, ça veut dire quand même qu'il a fait quelque chose d'assez grave pour être 2 ans en prison. Et 2 jours après, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous dit aussi, il a fait de la prison. Il vous dit oui, là, il n'y a pas longtemps, je suis sorti de prison et moi, j'en ai fait 23 ans. J'ai fait 23 ans de prison. Et là, vous vous dites, 23 ans, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui s'apparente au meurtre. Donc, vous voyez, il y a un lien, en fait, entre la peine et le crime. La durée de la peine nous montre la lourdeur du crime. Et maintenant, pensez à quelqu'un qui serait condamné à une prison. C'est pas pendant 100 ans, pas pendant 1000 ans, pas pendant 1 milliard d'années, mais pendant l'éternité. Et ça nous montre ce que nous méritons chacun d'entre nous, chaque être humain mérite cela. Et ça nous montre en fait la monstruosité que représente notre rébellion envers ce Dieu trois fois saint, ce Dieu juste. Pour mériter une telle peine, si dure, si longue. Et pourtant, en même temps, dans ce psaume, nous voyons que David exprime, excusez-moi, David exprime un grand espoir pour le pécheur que lui-même il est. Et donc nous avons vu que David se reconnaît comme étant pécheur, nous le sommes tous. Et maintenant nous voyons que David se reconnaît comme étant juste. Alors quoi faire pour David? Il sait ce roi qu'il est pécheur. Eh bien, il va vers Dieu. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. En fait, il est en train de parler à Dieu, de reconnaître son péché. Il ne va pas à un pro de la religion, il ne va pas vers un prêtre, vers un pasteur. Il se tourne directement vers Dieu parce qu'il sait que Dieu directement doit régler ce problème, pas un homme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de confesser, en fait. Et ici, nous avons exactement la même liste que nous retrouvons. Donc, les trois différentes sortes de péchés que nous retrouvons dans les versets 1 et 2, ils réapparaissent ici dans ce verset 5. C'est comme pour dire, nous avons commis tout cela, mais en fait, même la même sorte de péché, je les reconnais devant Dieu, et Dieu pardonne. Toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Nous voyons ici que ce n'est pas David lui-même qui est en train d'enlever son péché, il n'est pas en train de se purifier lui-même. Des fois, on peut avoir cette idée que en étant en train de confesser, on est en train de se purifier. Non, c'est pas ça. C'est Dieu qui purifie. C'est Dieu qui purifie. C'est un peu comme si, pour utiliser une image, un patient qui est mortellement malade, eh bien, il se met aux pieds de ce médecin. Et il reconnaît, tu dois me sauver. Je suis mort. Sauve-moi. Sans toi, je suis mort. Donc, c'est Dieu qui enlève le péché. Si vous voulez, le péché est en fait attaché à moi, comme mon ombre. Moi, je ne peux pas m'en défaire moi-même. Cette ombre, elle est attachée à moi. Dieu lui-même doit intervenir pour enlever cette noirceur. Et bien sûr, nous savons que c'est le message de toute la Bible, pas juste de ce psaume 32, c'est le message de tout l'Ancien Testament, de tout le Nouveau Testament, que Dieu est celui qui intervient, que Dieu est celui qui délivre. Et nous voyons bien sûr d'une manière et d'une qualité tout à fait différente dans le Nouveau Testament que c'est à travers Jésus-Christ que nous sommes libérés. Lui, l'homme-Dieu qui est venu sur terre, lui qui a vécu cette vie parfaite, il n'a commis aucun de ces types de péchés. Il a toujours honoré son Père. Il a toujours voulu le bien. Même lorsque le péché se présentait à lui, même lorsque il était tenté, il réagissait par instinct bien, parce qu'il est bon. Et donc il est venu et il est mort, abandonné par Dieu. Seul sur cette croix, il a porté nos fautes. Dieu l'a puni, a mis sur lui nos iniquités. Et en lui, nous pouvons trouver ce pardon. Et la justice de Dieu, en lui, trouve. La justice est réalisée, vous voyez. Et donc, nous pouvons être réconciliés. Et donc, comme David, et tous ceux qui, comme David, l'ont déjà fait dans les siècles passés, dans les millénaires passés, celui qui croit en Dieu, qui croit que Dieu est celui qui règle ce problème, qui enlève ce que nous ne pouvons pas enlever, cela trouve la paix et la présence de Dieu dans leur vie. Qui d'autre que Dieu aurait pu régler ce problème insoluble? Et gloire à lui, gloire à lui, car il a fait ce que personne ne pouvait faire. Et donc maintenant que nous sommes croyants, pour ceux d'entre nous qui le sont, comment se déroule notre vie? Comment se déroule notre vie? Eh bien, nous vivons, et là nous arrivons à la troisième partie de cette prédication, nous vivons en tant que pécheurs et justes à la fois. Pécheurs et justes à la fois. Comment est-ce que je peux dire ça? Comment est-ce que je peux faire cette déclaration? Eh bien, regardez le verset 6, qui suit le verset 5. Donc, le verset 5, hein, c'est cette confession. Il reconnaît son péché. Verset 6, qu'ainsi, comme moi, David, je viens de le faire, de confesser, donc, qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Le fidèle, donc, c'est, en d'autres mots, l'homme pieux. L'homme croyant. Donc ça montre bien que, en tant que croyant, nous restons dans cette nécessité. Nous restons dans ce besoin d'être pardonné, d'adresser ce type de prière, comme le verset 5, à notre Dieu. Et nous voyons donc ici qu'en tant que croyant, nous restons pécheurs, parce que nous continuons à pécher, mais nous sommes aussi justes, parce que Dieu nous justifie, tu as enlevé la faute de mon péché. Et donc le verset 5 reste d'actualité pour tout fidèle, tout croyant. Alors il y a des évangéliques moi j'ai déjà rencontré, qui m'ont dit, mais non, j'ai pas besoin de me repentir parce que je me suis repenti le jour de ma conversion, ça suffit. Mais non, ce n'est pas ça. C'est un style de vie qui s'ouvre. Et donc on le fait une fois, oui, lorsqu'on se convertit, mais c'est un style de vie qui continue, on persévère là-dedans. Comme le dit David, le roi David, qu'ainsi tout fidèle te prie. Au temps convenable. Donc, le temps convenable, c'est lorsqu'on pêche, bien sûr. Et lorsque Dieu nous montre ce péché. Donc, nous voyons donc ici que le chrétien reste pécheur en lui-même. Il était encore dans la chair. Il est encore incliné au mal. Il n'est pas encore au paradis. Lorsqu'il se regarde, il voit encore des imperfections. Il voit ses péchés, il voit du mal, et il voit que même ce qu'il fait pour Dieu, même ce qui lui paraît l'œuvre la plus belle peut-être qu'il a accomplie dans sa vie, même cette œuvre-là est encore tachée, imparfaite. Parce que c'est pas digne réellement de Dieu, qu'il est digne de perfection. Donc il aimerait aimer ce chrétien, mais il voit un amour tiède. Il aimerait prier, mais ses pensées sont souvent chargées. Et il se rend compte que ces mots qu'il dit sont sûrement, souvent plutôt un balbutiement qu'un parler personnel avec son Père qui est dans les cieux. Il aimerait donner, mais il se rend compte que ses mains sont crispées et qu'elles n'arrivent pas à donner pour le prochain. En tant que chrétien, nous connaissons des moments très difficiles lorsque nous décidons de tolérer des péchés dans nos vies. Et la main de Dieu pèsera sur nous. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Ben, c'est ce que nous retracent les versets 3 et 4 en fait. Tant que je suis tu, mes os se consumaient. C'est vraiment des images très fortes. Hein. Mes os même, pas juste ma chair, mais le plus profond de moi-même se consumait. Je gémissais toute la journée. Donc on a une durée, ça dure, on peut ressentir que ça dure comme une éternité. Car nuit et jour, donc tout le temps encore, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ou si on traduit mot à mot la dernière partie de ce verset, c'est transformé, a été mon gâteau juteux dans la chaleur de l'été. Donc les Juifs avaient des gâteaux, et donc à la chaleur de l'été, ça desséchait, c'était plus bon. Et il se sent comme ce gâteau-là, qui normalement est juteux et bon, et là, il n'y a plus rien de bon. Nous voyons d'ailleurs ici un des signes distinctifs en tant que vrais croyants. Nous connaissons de tels moments. Nous connaissons de tels moments où Dieu met sa main sur nous et ça pèse et c'est dur et nous aimerions que ça s'arrête. Dieu discipline ses enfants. Dieu discipline, Dieu corrige ceux qu'il aime. Et même si c'est dur, gloire à lui parce que finalement, c'est ce dont nous avons besoin. En tout cas, la joie, la force, la vigueur chrétienne, tout ça, ça peut nous paraître très loin parfois. On peut se sentir loin de Dieu. On a l'impression que ces choses, ces belles choses du passé sont inatteignables. Et dans ces moments sombres, le croyant expérimentera, et c'est tellement difficile, qu'il reste pécheur et que son péché peut le faire tomber très très bas et plus bas même qu'il le pensait même imaginable avant. Qui le pensait possible. Dans les versets 8 et 9, nous voyons que Dieu, en tant que Père, il instruit ses enfants. Je t'instruirai, je te montrerai. Donc c'est cette vie chrétienne qui s'ouvre hein, à ceux qui sont croyants et ceux qui se convertissent. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et là maintenant, cet impératif est... Et il y a le danger de ne pas écouter, n'est-ce pas, le verset 9. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare. » Et oui, notre nature pécheresse peut nous amener à ne pas écouter ça, à nous fermer à ce que Dieu nous enseigne, à nous fermer au chemin que Dieu veut pour nous. Mais toujours, Dieu dans sa bonté va nous amener à cette repentance que nous voyons au verset 5. Et Dieu enlève la faute de mon péché. Dieu enlève la faute de mon péché. Il est ce Dieu bon, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu d'amour. Donc beaucoup de choses nous montrent, en tant que croyants, que nous restons pécheurs. Mais en même temps, nous pouvons voir, et nous pourrons voir dans notre vie, qu'en Dieu, nous sommes justes, justifiés. Il saura, en tant que chrétien, le chrétien saura qu'il est juste dans les yeux de Dieu. Il a une justice qui lui vient de l'extérieur, une justice qui est étrangère à lui-même. Mais parce que Dieu le voit à travers Jésus-Christ, il voit le chrétien à travers Christ, il peut le voir plus blanc que neige. Plus blanc que neige. C'est comme un filtre, hein, que vous mettez devant les yeux. Par exemple, un filtre jaune, vous voyez tout en jaune. Eh bien, Dieu nous voit à travers Christ et l'œuvre parfaite de Christ. Et il nous voit plus blanc que blanc, comme le dit encore le psaume 51. Au verset 8, nous lisons Donc Dieu nous instruira. Donc il y a une nouvelle vie qui s'ouvre en tant que croyant, chrétien. Et donc c'est une réalité, il faut le souligner. Le chrétien va marcher différemment d'avant. Il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il va faire de bonnes œuvres. Mais lorsqu'il fera ces bonnes œuvres, il saura toujours que celles-ci ne viennent pas de lui-même. Elles sont encore une fois extérieures à lui, étrangères, ces belles œuvres. Elles sont en fait un fruit du Saint-Esprit en lui, dans sa vie. Et donc c'est tout à fait biblique de dire, même si la phrase ne se trouve pas comme ça dans la Bible, on peut dire le mal que nous commettons nous vient de nous-mêmes, le bien que nous commettons nous vient de Dieu. Le mal nous vient de nous-mêmes, le bien nous vient de la part de Dieu. C'est une grâce de sa part si nous pouvons faire des belles œuvres. Et donc nous sommes justes et pécheurs à la fois. Et donc, le croyant chrétien unit en lui deux réalités, deux natures, qui semblent être une contradiction, n'est-ce pas? En fait, il y a là vraiment une tension intellectuellement parlant. Comment est-ce que ça peut être vrai, les deux choses à la fois? Et là, face à cette tension, nous sommes dans un danger. Nous sommes dans un danger de vouloir casser cette tension, détruire la tension. De se débarrasser en fait de cette tension. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que on peut se débarrasser de cette tension? Bah, c'est de dire, tout d'abord, un exemple, c'est de dire, bah, on n'est plus pécheur en fait. Si on est chrétien, il faut qu'on atteigne un stade dans notre vie où on doit être parfait, où on va plus pécher. Il y a des chrétiens évangéliques qui ont enseigné ça, qui ont cru ça, qu'on pouvait devenir parfait. Il y a John Wesley par exemple. Au XVIIIe siècle, un grand prédicateur de réveil, un grand théologien. Il y a Charles Finney, un évangéliste du XIXe siècle, qui a cru ça, qui a enseigné ça, avant de se rétracter, parce qu'il s'est rendu compte que finalement, c'est pas biblique. Donc on peut dire, bah, il y a un stade où je dois devenir parfait, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est ici, verset 6, qu'ainsi tout fidèle te prie, au temps convenable. Autre manière de casser cette tension, c'est de dire, ben, puisque je suis pécheur, et puisque Jésus me pardonne, ah ben, allons-y, je peux pécher comme je veux, c'est bon, j'y vais. C'est ce qu'on appelle la grâce à bon marché, en langage théologique. Et c'est beaucoup, je trouve, dans le monde évangélique, ce qu'on rencontre aujourd'hui. Je crois que c'est le plus grand danger, de se dire, ah, je peux vivre comme je veux. De toute façon, je suis pardonné. Mais en fait, c'est quoi le problème si on pense ça? Ben, si on pense comme ça, c'est qu'on n'a pas compris en réalité la justice de Dieu. Parce que qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour que nous puissions être justes? Ça lui a coûté ce qui est le plus précieux dans cet univers. Ça lui a coûté son Fils. Et donc, on ne peut pas se contenter dans le péché. On ne peut pas être heureux dans le péché. On veut changer. On ne va jamais réussir sur cette terre comme on aimerait. Mais on veut et on se donne de la peine. On souhaite être saint, car Dieu est saint. Et bien sûr, au ciel, nous serons parfaitement parfaits. Mais nous sommes encore sur terre. Et donc, gardons cette tension. C'est important, gardons-la. Même si intellectuellement, c'est difficile à cerner. C'est difficile à penser, à y réfléchir. Nous sommes justes et pécheurs à la fois. Les deux réalités sont la vérité pour nous en tant que croyants. La Bible enseigne, et donc c'est vrai, et c'est important que nous puissions accepter cela. Si vous voulez, on est un peu comme l'ornithorynque. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal qui habite en Australie, à l'est de l'Australie, en Tasmanie aussi. C'est un animal tout à fait extraordinaire. Je pense que Dieu l'a placé dans la nature pour nous montrer que, y a des choses qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont la réalité. C'est un animal qui est vraiment bizarre. On dirait en fait une chimère, donc un mélange de différents animaux. Et il a un bec corné, cet animal. Donc ce qui, normalement, on ne voit pas dans la nature. Un bec avec des sortes de dents. Il a une queue qui évoque un castor. Il a des pattes de loutre. En plus de ça, il est venimeux. Et ce qui est vraiment ce qui a le plus étonné les biologistes quand ils l'ont découvert, c'est qu'en fait, c'est un mammifère qui pond des œufs. Donc normalement, vous savez, les mammifères, ben, ils portent leur bébé dans le ventre, ils grandissent dans le ventre. Et là, en fait, c'est un mammifère qui pond des œufs. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il a été découvert, cet animal, ça a tellement étonné les scientifiques en Angleterre, qui pensaient que c'était un canular, que c'était une blague, que c'était une invention. Mais non, il existe vraiment, cet animal. Et si vous voulez, on est un peu comme cet animal-là. On a des deux réalités qui semblent contradictoires, mais qui sont pourtant unies, et la réalité. Ou si vous voulez, d'autres images qui nous montrent dans la vie de tous les jours qu'il y a des choses qui semblent contradictoires, mais qui sont réelles. C'est comme un peu à l'aurore, lorsque le soleil est en train de se lever, c'est pas encore le jour. Ce n'est plus la nuit en fait. C'est ni le jour ni la nuit. L'aurore. Ou alors une autre image, c'est une maison qui est en train d'être construite. C'est une maison, c'est pas encore une maison. C'est les deux à la fois. Martin Luther a dit, les croyants, donc ce grand réformateur du XVIe siècle, Martin Luther, il a dit, les croyants sont intérieurement toujours des pécheurs. Donc ils restent pécheurs. C'est pour cela qu'ils sont toujours justifiés vers l'extérieur. Et autre part, il a dit, les croyants sont justes parce qu'ils croient en Christ. Sa justice les couvre, plus blanc que blanc. Sa justice leur est imputée, mais ils sont pécheurs parce qu'ils n'accomplissent pas la loi. Parce qu'ils ont des désirs mauvais. Et donc, nous sommes à la fois pécheurs et justes. C'est la réalité. Qu'est-ce que ça vous fait de penser à cette réalité? Qu'est-ce que ça vous fait? Regardez ce que ça fait au roi David et ce que ça devrait faire dans nos cœurs, dans nos vies. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Tu m'entoures de cris de délivrance. Verset 7, verset 10, verset 11 plutôt, pardon. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. On voit ici que ce psaume est parsemé de joie, de cris de joie, même d'appel à être joyeux. Et c'est ce que devrait faire cette réalité. En nous-mêmes, quel poids, quel poids terrible, n'est-ce pas? Le péché, et on se rend compte, je reste pécheur. Mais qu'est-ce que nous sommes élevés lorsque nous pensons que nous sommes justifiés? Quel contraste, vous voyez, entre cette réalité que nous voyons encore en nous et cette justice que Dieu nous offre. Et nous sommes justes. Et donc, nous avons raison d'être dans la joie. Et nous voyons que cette joie, en fait, nous avons raison d'être joyeux aussi, parce que cette joie, en fait, nous pouvons être dans la joie parce que Dieu lui-même est proche de nous, et c'est ce que nous montre le verset 10. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de tous côtés, il est entouré de la bienveillance, de sa bienveillance, donc de la bienveillance de Dieu. On peut aussi traduire la fidélité, il est entouré de la fidélité, de l'amour de Dieu. Quelle beauté, n'est-ce pas? Et donc, chers amis, acceptons cette exhortation d'être dans la joie. Écoutons Dieu qui nous parle à travers ces mots ici que David a écrit, le roi David. Dieu est là avec le pécheur que je suis. Dieu reste là avec moi. Il m'entoure de sa bienveillance, de son amour, de sa bonté. Et il pardonne. Et donc, quel sujet de joie, de reconnaissance, que Dieu nous voit comme étant juste. Amen.